Radio Marmottin, les élèves de la radio. Bonjour, c'est Roman. Voici le sommaire de votre émission Radio Marmottin. Tout d'abord, nous recevrons Monsieur Chavonneau, le directeur de l'école Marmottin, qui sera interrogé par Lucas, Chanel, Mathis et Jarod. Ensuite, Joshua, Kevin et Logan poseront des questions à l'inspectrice de circonscription. Je vous retrouverai ensuite en compagnie d'Alexis, de Mathieu et de Clément. Et nous serons en compagnie de Stéphane Prudhomme du CFAG. Vous découvrirez tout à l'heure cette structure. Olivier, Lindsay et Julian poseront des questions à Éric Deleval, qui est adjoint au maire de la commune de Bruay-la-Bussière. En avant-dernier, Julien Maille, animateur de Radio Plus, sera interviewé par Maëlys, Grégory et Evan. Enfin, pour terminer, nous interrogerons l'association Ella avec Molly, Lélian, Evan et Ethan. Mais tout de suite, on retrouve M. Pokora avec Cette année-là sur Radio Plus.
Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble.
Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année, cette année-là?
C'était M. Pokora sur Radio Plus. Tout de suite, on retrouve Lucas, Chanel et Mathis et Jarod en compagnie du directeur de l'école Marmottan.
Monsieur Chavenot, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui dans Radio Marmottan. Pourquoi êtes-vous devenu directeur d'école ?
Alors déjà, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à votre émission. Je suis très content d'y participer, c'est ma première émission de radio. Donc pour répondre à ta question, pourquoi je suis devenu directeur d'école ? Déjà, à la base, j'étais enseignant, d'accord ? Ensuite, à un moment dans ma carrière, j'ai eu envie de faire évoluer un petit peu mon métier. Donc en tant qu'enseignant, j'avais simplement ma classe et c'est vrai que le fait de devenir directeur d'école m'a permis de découvrir tous les autres niveaux. J'avais aussi envie de monter des projets pour tout le monde, voilà, un petit peu gérer, diriger une équipe. Et il faut savoir que quand on dirige une équipe dans une école, ça s'appelle piloter une école, comme une voiture de course, piloter.
Comment devient-on directeur ?
Alors, comme je viens de le dire à Lucas, avant d'être directeur, on est enseignant, comme tous les collègues de l'école. Ensuite, il y a deux possibilités. Quand on veut être directeur d'une petite école, on s'inscrit sur ce qu'on appelle une liste d'aptitudes. Et ensuite, on demande une école où il y a un poste de directeur qui est disponible. Par contre, pour les grandes écoles comme l'école Marmottan, là, il faut passer un entretien avec plusieurs inspecteurs de l'éducation nationale.
Combien d'années d'études faut-il pour devenir directeur d'école ?
Alors, il n'y a pas vraiment besoin d'années d'études supplémentaires. Donc, à la base, on est enseignant. Et ensuite, on passe simplement l'entretien, on a une formation. Donc, ce ne sont pas vraiment des années d'études supplémentaires.
Quel diplôme avez-vous ?
Alors, moi, j'ai fait mes études à l'université d'Arras, des études d'allemand. Et ensuite, j'ai passé le concours de professeur des écoles. Donc, niveau d'études, en fait, c'est une licence. Et puis après, une spécialisation pour la direction d'école.
Quel est votre quotidien ?
Alors, au quotidien, donc déjà, il faut savoir que dans la fonction de directeur d'école, le plus gros du travail est un travail relationnel. Aussi bien avec les familles qu'avec les collègues, mais également avec vous tous. D'accord ? On doit toujours, voilà, se rendre disponible pour tous les usagers de l'école. Ensuite, une grande partie de mon travail, c'est la mise en place de projets. D'accord ? Donc, notamment, vous savez très bien que certaines manifestations sont organisées au sein de l'école. Bientôt, il y aura la course longue. C'est vrai que là, c'est moi qui dois un petit peu organiser tout ça, avec l'aide des parents d'élèves, bien entendu. Mais voilà, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Ensuite, au niveau pédagogique, bien entendu, je me dois de suivre les évaluations de tous les élèves de l'école. C'est-à-dire que vous, quand vous apprenez des choses, quand vous êtes évalué par votre enseignant, tous vos résultats arrivent au bureau et moi, je regarde un petit peu si tout se passe bien pour l'ensemble des élèves. Ensuite, j'ai aussi un pan de mon travail qui me permet de gérer les différents personnels. Donc, vous connaissez Anne et Nicolas, les secrétaires. Vous connaissez également les trois AVS. C'est moi qui fais leur emploi du temps, etc., etc., et qui leur donne le travail à accomplir.
Quelles sont vos responsabilités en tant que directeur ?
Alors, la première responsabilité en tant que directeur, c'est d'assurer la sécurité de tous les élèves de l'école. D'accord ? Ça, c'est vraiment ma responsabilité première. Ensuite, au niveau pédagogique, une autre responsabilité, c'est de m'assurer que tous les élèves bénéficient, on va dire, d'un enseignement en adéquation avec les nouveaux programmes. Vous savez que nous, en tant qu'enseignants, on doit respecter des programmes qui viennent du ministère. Et moi, je m'assure que chaque collègue, voilà, vous enseigne ce que préconisent les programmes.
Que faites-vous avant d'être directeur ?
Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Lucas, avant d'être directeur, j'étais enseignant. Je continue toujours à être enseignant le jeudi et le vendredi, pas de problème. Sinon, avant d'être directeur ici, j'étais directeur d'une école maternelle à Saint-Paul.
Est-ce que le métier de directeur d'école a beaucoup changé ?
Alors, a beaucoup changé, je ne sais pas, mais il change constamment, d'accord ? C'est-à-dire que c'est un métier très très varié. Chaque jour, il y a de nouvelles choses à gérer. Chaque jour, on fait des découvertes. Donc, c'est vrai que c'est ce côté-là qui est très intéressant. Donc, il évolue tout le temps, en fait.
Quel est le projet pédagogique de l'école Marmottan ?
Alors, on a deux axes majeurs dans notre projet pédagogique. Le premier, c'est de développer les compétences, donc vos compétences en grammaire, conjugaison et vocabulaire. D'accord ? Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment que vous vous en sortiez le mieux possible dans l'apprentissage de la langue française. Ensuite, un deuxième axe important de notre projet pédagogique, c'est de développer le parcours culturel. Donc là, c'est toutes les actions qu'on met en place avec vous pour que vous puissiez assister à des spectacles, aller au cinéma, faire des sorties pédagogiques, culturelles, etc., etc., des sorties au théâtre. Et notamment, on va organiser prochainement, du 15 au 19 mai, une grande exposition à l'école, comme chaque année, où là, justement, chaque élève va pouvoir montrer tout ce qu'il a appris au niveau culturel durant cette année.
Aimez-vous faire ce métier ?
Alors oui, c'est vraiment un métier que j'aime beaucoup. Je vous l'ai dit tout à l'heure, La première raison, c'est parce que c'est vraiment très 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 varié. Je ne peux jamais me lever le matin et me dire aujourd'hui, voilà, ma journée va se dérouler de telle façon, puisque forcément, il se passera quelque chose, forcément, il y aura quelque chose à gérer, forcément, des élèves, vous êtes près de 250 ici, vont venir me voir. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment anticiper, mais c'est ça qui me plaît beaucoup. Et ce que je préfère dans ce métier, c'est le contact avec toutes les personnes que je rencontre.
Merci Monsieur Chavenot d'avoir répondu à toutes nos questions.
Eh bien, merci à vous.
Vous êtes toujours sur Radio Plus dans l'émission Radio Marmottan. Tout de suite, Black M avec Francis.
Radio Marmottan, les élèves de la radio.
L'homme le fautif, hein. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout, pas du tout, pas du tout. French kiss. Certaines choses qu'il faut pas goûter. Arrête de dire qu'elle te dégoûte. Ah mon gars va, tes frérots sont là, t'inquiète pas, ça va. Comment ça, comment ça? Oublie là, tu peux tout recommencer. Une de perdue, 10 de retrouvée. Toi tu veux retrouver celle que t'as perdue. Bah ouais, quand cœur est brisé, tous les hommes ne font que dramatiser. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément. Pas du tout. À la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout, pas du tout, pas du tout. French kiss. Tu sais pas ce que tu veux, toi. Tu le veux sous le même toit. Tu la veux sous le même toit. En amour suffit pas d'y croire. Tu vis dans le doute et l'espoir. Quand t'es seul face à ton miroir, tu te refais l'histoire. Mais tu l'aimes,
tu l'aimes, tu l'aimes.
Ah, tu l'aimes,
tu l'aimes, tu l'aimes.
Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément. À la folie, un peu beaucoup, passionnément. Pas du tout,
pas du tout,
pas du tout. French kiss.
C'était Black M sur Radio Plus. On retrouve à présent Joshua, Kevin et Logan en compagnie de l'inspectrice de circonscription.
Bonjour madame l'inspectrice de circonscription, merci d'être avec nous sur Radio Plus.
Qu'est-ce qu'une circonscription et qu'est-ce qu'une académie ?
Alors, une circonscription, c'est un territoire géographique composé d'un certain nombre d'écoles et il y en a 32 dans le département du Pas-de-Calais, alors qu'une académie, ça correspond à l'équivalent d'une région.
Comment devient-on inspecteur de circonscription ?
Alors, pour devenir inspecteur ou inspectrice, il faut passer un concours national. On part à Paris passer un concours. Et au départ, il faut être professeur dans l'éducation nationale.
Comment sont organisées les académies ?
Les académies sont organisées comme les régions. C'est-à-dire qu'il y a une académie par région et qui est découpée en départements.
Combien y a-t-il d'élèves dans votre circonscription ?
Beaucoup d'élèves. Il y a environ 5000 élèves dans la circonscription de Bruay-la-Bissière. Et dans une circonscription générale, on a entre 4500 et 5200 élèves.
Combien y a-t-il d'inspecteurs dans la circonscription et dans l'académie ?
Alors, dans la on a un inspecteur par circonscription. Pour le Pas-de-Calais, nous sommes 37 inspecteurs du premier degré. Et pour l'académie, nous sommes une centaine.
Est-ce qu'il vous arrive de devoir travailler dans plusieurs circonscriptions ?
Alors, ça nous arrive de changer de circonscription pour aider les collègues ou pour faire des formations. Mais de manière générale, on travaille sur une seule circonscription. Par exemple, dans la circonscription de Bruay-la-Bissière, moi, je travaille sur 13 communes.
Comment trouvez-vous votre travail ?
Je le trouve passionnant. J'ai un travail très très intéressant parce que je travaille pour les élèves, je travaille pour les enseignants, je travaille pour leurs familles et j'ai beaucoup de situations et de j'ai beaucoup de situations à regarder, à échanger, à trouver des solutions et quelque part tous les jours est différent. Je fais des tâches tous les jours très très différentes les unes des autres. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup mon métier.
Merci d'être venu dans notre émission. À bientôt.
Je vous en prie. À bientôt.
Tout de suite, nous retrouvons Alexis, Mathieu et Clément. Tous les quatre, nous allons interviewer notre nouvel invité, Stéphane Prudhomme. Radio Marmottin, les élèves de la radio.
Stéphane Prudhomme, bonjour. Vous faites partie du CFAG, qui est le centre de formation d'animateurs et de gestion. Mais qu'est-ce que c'est précisément ?
Alors, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Alors le CFAG, c'est une association de loi 1901, donc une association à but non lucratif, qui est agréée jeunesse et éducation populaire. Donc elle a été créée en 1974 dans la région centre, en région autour de Tours. Elle a été créée par Claude et Michel Robin, Francine Tolman et Charles Crochard. Cette association est implantée sur le territoire national et elle a pour vocation de former les animateurs et les directeurs des structures d'ACM. Alors les ACM, ce sont les accueils collectifs de mineurs.
Depuis combien de temps y travaillez-vous ?
Alors moi j'ai démarré comme formateur au CFAG vers la fin des années 90, c'est-à-dire vers 98 ou 99, ça fait à peu près 20 ans. Et aujourd'hui, je suis directeur général du CFAG depuis maintenant 4 ans.
Que signifie le BAFA ?
Le BAFA, donc le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, c'est un diplôme non professionnel qui permet aux jeunes d'encadrer, d'animer les enfants dans les structures donc, d'accueil collectif de mineurs de manière occasionnelle.
À partir de quel âge peut-on passer le BAFA ?
Alors, on peut démarrer une formation BAFA à partir de 17 ans. Mais on peut s'inscrire administrativement 3 mois auparavant. C'est-à-dire que toute personne qui passe le BAFA s'inscrit sur un site du ministère, sur le site jeune.gouv. Donc, et cette préinscription peut se faire 3 mois avant les 17 ans. Mais la formation ne peut pas être entamée avant le premier jour de ses 17 ans.
Y a-t-il un âge limite pour passer le BAFA ?
Non, il n'y a pas d'âge limite pour passer le BAFA. On passe le BAFA à tout âge. De manière régulière, on reçoit des mamans ou des papas qui veulent se former donc à la formation d'animateur. C'est également le cas des ATSEM, le personnel des écoles maternelles, qui se forment régulièrement au BAFA.
Faut-il un diplôme pour passer le BAFA ?
Alors, il n'y a pas de diplôme requis pour passer le BAFA. La seule condition, c'est d'avoir 17 ans et de résider en France.
Combien de temps faut-il pour passer le BAFA ?
Alors, il n'y a pas de temps minimum, si ce n'est que la formation générale, donc la première partie du BAFA, dure 8 jours. Donc sur cette formation générale, l'animateur va acquérir des compétences législatives, pédagogiques, techniques. Ensuite, il faut 14 jours de stage pratique au minimum. Donc entre la formation générale et le stage pratique, il y a un maximum de 18 mois. Ça veut dire que si on entame une formation en janvier 2017, il faut qu'au mois de fin juin 2018, le stage pratique soit effectué. Et enfin, il y a une troisième étape qui est l'approfondissement qui dure 6 jours. Donc, on pourrait, dans l'idéal, faire une formation en 28 jours. Ça, c'est le minimum possible. Ça veut dire si on enchaînait toutes les étapes. Et le délai maximum est de 30 mois. À partir du moment où on entame un cursus de formation, on a 30 mois pour finir cette formation.
Combien coûte la formation BAFA ?
Alors là, c'est très variable, d'une région à une autre, d'un organisme à un autre, d'une structure à une autre. La formation BAFA, donc là, si on parle du Pas-de-Calais, on a la chance d'avoir le conseil départemental qui aide les jeunes à la formation. Donc il existe déjà une aide de 200 euros pour tout jeune résident dans le Pas-de-Calais, âgé de moins de 30 ans, donc de 17 à 30 ans. Cette aide, elle n'est valable que sur les formations en internat. Et le coût de la formation, si on prend une formation complète, formation générale et approfondissement, puisque le stage pratique, c'est un petit peu différent, ça varie de à peu près 700 euros, voire 1000 euros au total, sachant que lors du stage pratique, normalement, le stagiaire qui est en formation est rémunéré par la structure qui l'accueille.
Comment se déroule le BAFA ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, je crois que c'était Alexis, le BAFA est en trois étapes. La première partie, c'est la formation générale qui dure 8 jours. Donc, lors de cette formation générale, il y a un certain nombre de compétences et de techniques et de savoirs à acquérir, sachant que la formation répond à l'agrément du ministère et donc à l'arrêté du 15 juillet 2015 qui définit ce qu'il y a dans la formation. Donc, les trois étapes, je les rappelle, donc la formation générale qui dure 8 jours, le stage pratique 14 jours minimum et l'approfondissement 6 jours minimum. Ce sont toujours des minimums. On peut aller plus loin. Il y a des formations qui, par exemple, une formation générale peut durer 10 jours.
À quelle situation sont adaptées vos formations ?
Alors, je crois comprendre par cette question qu'il s'agit des spécificités des approfondissements. Dans les approfondissements BAFA, il y a des techniques particulières. Par exemple, on a dans les approfondissements des approfondissements qui sont plutôt orientés vers un public, approfondissement maternel ou en tout cas petite enfance, approfondissement public adolescent, ou aussi des approfondissements qui sont liés, qui sont orientés plutôt vers des techniques d'animation. Par exemple, approfondissement jeu-grand jeu, approfondissement sur l'intégration des enfants porteurs de handicap, l'approfondissement sur les techniques manuelles.
Y a-t-il des évolutions possibles après le BAFA ?
Alors oui, c'est vrai que le BAFA, c'est un diplôme non professionnel, donc il permet d'intervenir de manière occasionnelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas encadrer toute l'année, en tout cas comme animateur permanent avec le BAFA. Dans les structures qui accueillent 80 jeunes, plus de 80 jours par an, il faut ce qu'on appelle un diplôme professionnel. Alors il y a plusieurs types de diplômes professionnels. Le premier, c'est le BPJEPS, brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sportive, qui permet d'animer de manière permanente. Ensuite, il existe le DEJEPS, diplôme d'État, jeunesse, éducation populaire et sportive, et le DESJEPS, diplôme d'État supérieur, jeunesse, éducation populaire et sportive. Il y a également d'autres diplômes professionnels, ou ce qu'on appelle des CQP, des certificats de qualification professionnelle.
Pour terminer, Stéphane Prudhomme, où peut-on se renseigner pour plus d'informations sur le CFAG ?
Alors, je vais vous renvoyer dans un premier temps sur notre site internet, www.asso-cfag.com, et également sur toutes nos structures départementales ou régionales, puisque le CFAG est implanté sur tout le territoire national. Donc, vous trouvez toutes les coordonnées sur notre site.
Merci Stéphane Prudhomme d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, du rock avec le groupe Linkin Park.
Merci à vous.
Cause I don't have a reason.
dans Radio Marmottan. Et tout de suite, nous accueillons Éric Deleval, adjoint au maire de Bruay-la-Bussière, qui va être interrogé par l'INSEE, Olivier et Juliane.
Bonjour Monsieur Deleval et merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint au maire de la ville de Bruay-la-Bussière.
Justement, qu'est-ce qu'est un maire adjoint ?
Alors, un maire adjoint, eh bien, c'est une personne qui travaille avec le maire, auquel le maire accorde une délégation. Donc il y a un certain nombre de responsabilités à prendre dans une ville et en fonction de ces différentes responsabilités, le maire choisit, notamment à Bruay par exemple, 10 adjoints. L'un s'occupera du logement, un autre de la culture, un autre des affaires sociales ou de la sécurité dans la commune, des finances. Voilà, il y a une dizaine de délégations qui sont distribuées. Et donc, ces personnes ont pour mission de suppléer le maire, de signer un certain nombre de documents pour lui, et puis naturellement de mettre en œuvre aussi ce que le maire leur demande.
De quoi vous occupez-vous en tant qu'adjoint au maire ?
Alors, en tant qu'adjoint, je suis d'une part chargé de la culture dans cette ville et d'autre part de tout ce qui peut concerner la jeunesse, l'éducation, l'enseignement. Ça comporte notamment les écoles élémentaires de la ville.
Comment devient-on adjoint au maire ?
Pour devenir adjoint au maire, il faut tout d'abord être élu. Il faut donc participer aux élections, faire partie d'une liste qui se fait élire. Ensuite, au sein de cette liste, des élus vont désigner le maire en votant pour la personne qui sera candidate à cette fonction de maire. Et puis, à l'issue de ce vote du maire, eh bien le maire, lui, va proposer un certain nombre de personnes pour qu'elles deviennent ses adjointes. Elles-mêmes vont être désignées aussi par le conseil municipal lors d'un vote.
Quelles études faut-il faire pour en arriver là ?
Quelles études ? Alors, il y a justement absolument pas d'études. Être élu, ça n'est pas un métier. Voilà, ça ne s'apprend pas dans les écoles. Ça demande, bien sûr, en fonction des responsabilités qu'on a, un certain nombre de connaissances. Mais il n'est absolument pas utile d'avoir fait des études particulières pour assumer une fonction. Ce qui est important lorsque l'on est élu, c'est d'avoir une assez bonne conscience des situations qui peuvent se dérouler dans la ville, éventuellement des difficultés que peuvent rencontrer un certain nombre de personnes, et puis de rechercher, avec naturellement des techniciens qui nous accompagnent dans le travail, eh bien des solutions pour répondre aux problématiques d'une ville. Et puis il faut aussi bien sûr avoir un certain nombre de projets, mais il n'y a pas de diplôme qui soit exigé. Alors naturellement, bon, pour devenir adjoint aux finances, il est évident que si on a des notions de comptabilité, ça peut aider. Pour être adjoint en charge de la culture, avoir une connaissance culturelle personnelle, ça peut aussi apporter un certain nombre de pistes de réflexion. Mais rien n'est exigible.
Combien de temps dure votre mandat d'adjoint au maire ?
Alors le maire est élu pour 6 ans dans la ville, et donc le mandat peut durer jusqu'à 6 ans, mais le maire peut, pour des raisons diverses, se séparer d'un adjoint et en désigner un autre. Hein, l'adjoint n'est pas nécessairement adjoint pour 6 ans. En revanche, le conseiller municipal, lui, est élu pour 6 ans et reste conseiller municipal quoi qu'il arrive.
Est-ce que le maire peut changer d'adjoint au maire ?
Voilà, c'est ce que je disais à l'instant. Hein, s'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent ou le choix d'un adjoint de changer de délégation, oui, le maire peut à tout moment enlever sa délégation à un adjoint et l'accorder à un autre.
Un adjoint qui exerce une profession a-t-il droit à des autorisations d'absence pour l'exercice de son mandat ?
Oui. Les personnes qui sont adjointes, ça dépend de la taille de la collectivité, hein, de la population de la ville, mais un certain nombre d'heures peuvent être accordées aux élus, et notamment aux adjoints, pour exercer leur mandat. Alors c'est limité à la participation à un certain nombre d'assemblées, par exemple comme le conseil municipal. On ne peut pas empêcher un conseiller municipal d'assister au conseil municipal. Si ça tombe pendant son temps de travail, il bénéficie d'une autorisation d'absence. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'absences qui sont possibles. Ça s'appelle un créditeur. Dans le cadre du créditeur, un élu peut faire valoir un droit à absence, mais naturellement, lorsqu'il est absent de son travail, il n'est pas rémunéré.
Quelles sont les conséquences de la vacance d'un poste d'adjoint ?
Alors la vacance d'un poste d'adjoint, on est justement confronté à ça dans notre ville pour l'instant. L'émission qui était celle de l'adjoint, et là il s'agit de la disparition d'un de nos collègues, ces missions sont réparties. Le maire reprend une partie de ses responsabilités et après un certain délai, un nouvel adjoint sera nommé dans le poste.
Merci Monsieur Neneval d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maire adjoint de Bruay-la-Buchière.
Oui, ça a été un plaisir pour moi aussi d'avoir ce petit moment d'entretien. Je vous félicite d'être aussi curieux de ce qu'est le fonctionnement municipal. Voilà, je vous adresserai aussi mes félicitations à votre maître qui a tout à fait raison de vous engager sur ce travail au sujet de la citoyenneté.
Et tout de suite, Amir avec J'ai cherché.
J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi.
sur Radio Plus. À présent, nous retrouvons Grégory, Evan, Dimitri et moi-même qui vont interviewer Julien Maille de Radio Plus. Bonjour Julien Maille, merci d'être avec nous. Vous êtes animateur, technicien et réalisateur sur Radio Plus. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Eh ben bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Moi, je suis très content que vous m'ayez invité parce que d'habitude, c'est vrai que c'est moi qui pose des questions et puis pour une fois, je me retrouve de l'autre côté. Donc, je suis très content de le faire et d'autant plus content de le faire avec vous, les élèves de l'école Marmottan. Alors, tu m'as demandé pourquoi j'avais choisi ce métier. Eh bien, j'ai pas vraiment choisi ce métier parce que avant de commencer, en fait, je ne pensais pas qu'être animateur radio pouvait être un métier. Je savais qu'on pouvait animer sur une radio, mais pour moi, c'était quelque chose d'assez inaccessible, en fait. Donc, je savais pas du tout qu'on pouvait en faire un métier. Et puis, finalement, j'ai fini par le faire et j'en suis très content.
Depuis combien de temps travaillez-vous à Radio Plus ?
Alors là, je suis salarié depuis 3 ans au sein de Radio Plus. Et en fait, juste un peu avant, pendant un peu plus d'un an, j'ai été bénévole, j'ai été animateur bénévole. En fait, j'ai eu la chance de prouver que je faisais du bon travail et que j'étais investi. Et bien, du coup, on m'a ensuite proposé d'être salarié de la radio. Et ben voilà, je suis le dernier arrivé, je suis le petit nouveau finalement dans Radio Plus.
Où exercez-vous votre métier ?
Alors, ce métier, je l'exerce principalement dans les locaux de la radio, à Douvrin, au 6 rue Coé, où on réalise nos émissions en direct. Parfois, on les enregistre en amont quand c'est nécessaire. Et puis, ça arrive aussi, comme en ce moment, en fait, qu'on se déplace dans des lieux donnés, par exemple dans des écoles, pour aller enregistrer les émissions, pour permettre de ramener un petit peu la radio dans des lieux qui n'ont pas l'habitude de recevoir une radio, justement. Et ça permet aussi, lorsque l'on fait une manifestation en direct, de la faire vivre aux auditeurs.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être animateur radio ?
Je crois que c'est le fait de partager avec les gens. On a quand même une chance formidable, c'est d'avoir un petit peu des infos avant tout le monde, que ça soit en matière de dates de concert, en matière de nouveaux CD qui sortent, de nouveaux artistes à découvrir. Je pense que c'est vraiment super intéressant de pouvoir les faire découvrir aux gens. C'est l'une des choses qui me plaît le plus dans ce métier. La deuxième, c'est que dans ce métier, on ne s'ennuie jamais. C'est un peu comme le directeur qui a été interviewé tout à l'heure, le directeur de l'école Marmottan. C'est qu'on ne sait jamais à l'avance comment va se passer la journée, et ça, je trouve ça très intéressant également. Et puis, la troisième chose, c'est tout simplement de pouvoir partager avec les gens. Lorsque vous écoutez la radio chez vous, vous êtes parfois en train de vous laver, si vous êtes dans votre salle de bain, vous êtes peut-être prêt à dormir, si vous écoutez la radio dans votre chambre, ou alors vous êtes peut-être en train de faire la cuisine, et la radio, c'est le média qui vous accompagne à tous les moments de votre vie, et ça, c'est quand même une chance formidable d'être justement dans le poste de radio.
Qu'est-ce que cela vous fait d'être entendu par beaucoup de personnes ?
C'est difficile de s'en rendre compte, en fait, parce que le nombre de personnes, on le connaît, il est de 20 000 auditeurs par semaine qui sont à l'écoute de Radio Plus. Mais c'est vrai que quand moi, je suis dans ma cabine, je les vois pas, les gens. Donc, c'est assez difficile de se rendre compte de ce que ça représente. Mais en tout cas, je suis très fier d'avoir autant de gens qui sont à l'écoute. Et ça nous oblige, que ce soit moi personnellement ou les autres salariés de la station ou encore les animateurs bénévoles qui ont des émissions à l'antenne, je pense que ça nous oblige à faire des émissions qui doivent être toujours de meilleure qualité pour qu'on gagne encore plus d'auditeurs et qu'on ne lasse pas ceux qui sont déjà là. Donc ouais, c'est difficile de s'en rendre compte, mais en tout cas, je suis très fier de ce chiffre.
Quelle étude faut-il faire pour travailler à la radio ?
Alors ça, c'est une question intéressante parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Il y a quelques années, on va dire il y a 10-15 ans, pour être animateur radio, il n'y avait pas de diplôme à proprement parler. C'est-à-dire qu'on passait, comme je l'ai fait d'ailleurs, par une radio associative. On démarrait en tant que bénévole. On se faisait repérer par le directeur d'antenne ou par quelqu'un d'une autre station. On faisait ses preuves et puis on avait la chance ensuite d'être salarié d'une radio. C'est le parcours que j'ai suivi. Et puis depuis quelques années, maintenant, il y a des écoles de radio. Alors ce sont des écoles privées, c'est quelque chose d'assez différent de l'école publique dans laquelle vous êtes actuellement et dans laquelle vous avez continué pour la plupart à faire vos études. En fait, ce sont des écoles dans lesquelles on paye pour être inscrit. Et en échange de ce droit d'entrée, eh bien, on vous distribue pendant un an, deux ans, trois ans, selon le cursus, des cours d'animation radio. Donc, on vous apprend à respirer, on vous apprend à poser la voix, on vous apprend à faire des interviews également. Et donc, en fait, ensuite, vous avez des stages pratiques. C'est un peu comme le BAFA, hein, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit précédemment. Des stages pratiques dans des radios où là, vous menez concrètement ce que vous avez appris à l'école. On vous donne l'opportunité d'exercer votre métier. Et à l'issue des stages, eh bien, vous pouvez postuler dans les radios, que ce soit les radios associatives, que ce soit les radios commerciales comme Skyrock, Énergie. Voilà, vous pouvez postuler un petit peu partout avec ce genre de diplôme. Alors, ça a ses avantages, ça a aussi ses inconvénients parce que c'est quelque chose qui est quand même très cher. Il faut savoir qu'on est, pour faire une école de radio, sur un budget de 10 000 euros par an. Et quand il y a trois années de cursus, eh bien, on arrive à 30 000 euros. Et c'est quelque chose de très cher que tout le monde n'a malheureusement pas les moyens de se payer.
Qu'est-ce que ça fait de passer à la radio ?
Alors, ça c'est très bizarre de passer à la radio. La première fois que je suis passé à la radio, peut-être comme vous, hein, vous êtes en train d'en faire l'expérience, on n'aime pas sa voix. Et puis, voilà, après on entend, on commence à avoir confiance en ce qu'on fait. Et puis on a les premiers appels d'auditeurs qui nous disent « Ah bah tiens, je suis en train d'écouter votre émission et j'aime beaucoup ce que vous faites ». Il y a une certaine forme de fierté, mais je crois que dans ce métier, quand on passe à la radio... Il faut pas tricher. Quand on est animateur, parce que on donne quelque chose aux gens. Quand on est invité aussi, on donne quelque chose aux gens. Là, vous êtes en train de m'interroger sur mon métier. J'espère peut-être vous donner envie de faire ce métier, ou en tout cas pour ceux qui nous écoutent, eh bien de leur expliquer que c'est quelque chose quand même qui est très sérieux, l'animation radio. Et voilà, pour revenir à ta question, ben je pense que ce que ça fait, c'est une prise de conscience. Ça permet aussi d'avoir confiance en soi. Moi, j'étais très timide avant de faire de la radio. Je le suis encore dans certaines circonstances. Ça va beaucoup mieux depuis grâce à la radio. Et voilà, je pense qu'il faut avoir conscience qu'on donne quelque chose aux gens. Et c'est ce qui va faire, en fait, qu'on va prendre la mesure de ce que c'est, en fait.
Avez-vous votre propre émission ?
Alors oui, et j'en ai pas qu'une d'ailleurs, j'ai plusieurs émissions sur les ondes de Radio Plus. Alors je vais commencer par Humour Plus, c'est une émission dans laquelle j'ai démarré en tant que bénévole. Donc c'est celle qui m'a permis de me faire repérer par le directeur de la station, Christophe Pasquier, que j'en profite pour saluer et remercier d'ailleurs. Alors c'est une émission en fait qui est consacrée à l'actualité des humoristes. Vous en croisez beaucoup, hein, des humoristes, que ça soit sur YouTube, que ça soit dans les salles de spectacle. Eh bien, parfois ces humoristes ont besoin d'un petit coup de pouce pour remplir les salles de spectacle, donc ils passent chez nous. On les interview et on donne envie aux gens de venir voir leur spectacle. Ça, c'est la première émission que j'ai été amené à faire sur les ondes de Radio Plus. Et puis, depuis, en tant que salarié, eh bien, j'en ai fait d'autres. Il y a tout d'abord la Matinale Plus, donc qui a lieu, comme son nom l'indique, le matin, entre 7h et 9h. Et puis, depuis peu également, pour moi, Localement Plus, entre 16h et 18h. Et en fait, dans ces deux émissions, on va retrouver à peu près le même programme, de la musique, des informations locales. Par exemple, s'il y a une manifestation organisée par les parents d'élèves de l'école Marmottan, on va en parler. Également des interviews d'associations. Et puis de la musique aussi, parce que le but, ben, c'est d'accompagner les gens le matin quand ils sont en train de se préparer pour vous emmener à l'école quand c'est vos parents, ou pour aller au travail. Et puis sur le créneau 16h-18h, eh bien, c'est les ramener sur la route du retour à la maison, parce que ben, parfois les journées de travail sont un petit peu compliquées, donc on a besoin de musique pour se détendre. On a besoin aussi de savoir si ça roule bien ou si ça roule mal sur la route du retour à la maison. Et voilà, ça c'est le but de ces deux émissions-là, c'est d'informer les gens. Et puis il y a une dernière émission qui s'appelle Maintenant j'y vais. Là, c'est un magazine d'actualité et de sorties culturelles où en fait j'interview les responsables de salles de spectacle, les programmateurs, où j'interview des artistes qui viennent se produire également dans la région. Et voilà, on les interroge sur ce qui se passe, sur leur actualité, et on donne l'information aux gens.
Merci Julien d'avoir répondu à nos questions. On retrouve Maëlys.
Tout de suite, on retrouve Molly, Lélian, Evan et Ethan qui vont interviewer un membre de l'association Ella par téléphone.
Bonjour monsieur Jean-Luc Cartier, vous faites partie de l'association Ella, merci d'être avec nous sur Radio Plus. C'est quoi la leucodystrophie ?
Alors d'abord on parle de leucodystrophie au pluriel, c'est-à-dire qu'on met un S à la fin du mot leucodystrophie car c'est un groupe de maladies qui touche la gaine de myéline qui entoure les nerfs. Alors pour mieux comprendre, on compare souvent cette gaine de myéline à la gaine isolante de plastique qui entoure un fil électrique. Eh bien, lorsque vous avez un fil électrique et que sa gaine est trouée ou absente, eh bien, le courant ne passe plus correctement. Ben, au niveau du corps humain, c'est pareil. Lorsque la gaine de myéline est absente, eh bien, le message nerveux ne circule plus correctement. Et puis, ce sont toutes les fonctions qui vont être touchées. Ça va être la perte de la vue, la perte de l'ouïe, la perte de la mobilité. Et puis, malheureusement, comme il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement, ce sont des maladies qui vont conduire très souvent au décès des malades.
Comment attrape-t-on la leucodystrophie ?
Alors, les leucodystrophies, ce sont des maladies génétiques, c'est-à-dire qu'elles sont héréditaires et transmises par un des parents, selon les lois de la génétique, hein, qui est assez compliquée. Mais moi, je pense que ce qu'il faut bien retenir, que ce sont des maladies qui ne sont pas contagieuses. Donc ça veut dire que si on se rapproche d'un enfant atteint de leucodystrophie, ou qu'on fait un bisou à un petit enfant atteint de leucodystrophie, à une personne atteinte de leucodystrophie, eh ben on n'attrapera pas la maladie.
Pourquoi avez-vous appelé votre association ELLA ?
Alors, ELLA, ça veut dire, c'est l'Association européenne contre les leucodystrophies. Alors, si on prend les initiales de l'Association européenne contre les leucodystrophies, ça fait AEL. C'est pas très joli, par contre, si on le dit en anglais, c'est European Leucodystrophy Association, et ça fait ELLA, qui est bien plus joli.
Comment avez-vous créé cette association ?
Ben, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un parent qui s'appelle Guy Alba, qui est le fondateur d'ELLA, et donc qui est concerné dans sa famille proche par la maladie. Donc, quand il l'a appris, il a dit « Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Je vais me bouger. Il a créé cette association, alors pas pour régler seulement le problème qu'il concernait lui-même, mais pour aider toutes les familles, tous les parents atteints de la maladie.
Depuis quand l'association existe-t-elle ?
Alors, l'association a été justement créée par Guy Alba en 1992. Donc, si on fait le calcul, 2017-1992, ça fait 25 ans cette année.
Qui travaille dans votre association ?
Alors, dans l'association, on va retrouver des personnes qui travaillent dans plusieurs domaines. Alors, il y a le domaine du médico-social, avec psychologues, assistantes sociales. Alors ça, ce sont des gens qui sont là pour aider, accompagner les familles. Il y a eu un domaine des gens qui travaillent dans la recherche, qui sont en lien avec les chercheurs. Il y a des gens qui travaillent dans la communication, qui est importante pour faire parler d'ELLA, pour faire parler des leucodystrophies. Il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, un des slogans de l'association, c'était « En parler, c'est déjà aider ». Voyez. Et puis, il y a des gens qui sont là pour récolter de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre. Si on veut financer la recherche, si on veut aider les familles, il faut de l'argent. Et puis, il y a d'autres personnes qui travaillent dans le milieu administratif, le secrétariat, etc. Donc, ça fait un peu plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent là au quotidien.
Quelles sont les actions de votre association ?
Alors, il y a deux actions principales. Hein. La première, vous la connaissez, c'est Mettez Basket, hein, à l'école. Et ça, c'est une opération qui date depuis 1994. Et vous avez montré l'exemple aux adultes. Et on a décliné cette opération dans les écoles aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise. C'est Mettez Basket dans l'entreprise. Ce sont les deux principales opérations. Puis après, il y a plein d'actions qui sont mises en œuvre par les familles d'ELLA, les parents, les amis.
Combien y a-t-il de membres dans votre association ?
Alors, je ne sais pas ce que tu entends par membre, parce que normalement, dans une association, il y a des adhérents. Alors, si on parle d'adhérents, il y a un peu plus de 1000 adhérents à ELLA. Mais il y a aussi des membres, mais ce sont des membres qui siègent au conseil d'administration de l'association. À ELLA, il y a 15 membres élus, et ce qui est important de savoir, c'est que ces 15 membres sont des parents ou des malades, donc des gens qui sont très très proches de la maladie et des leucodystrophies.
Comment s'appelle le directeur ?
Alors, on n'a pas de directeur, mais on a une directrice qui s'appelle Natacha Koenig.
Combien d'enfants sont touchés par an par cette maladie ?
Alors, si on parle de la France, on a 3 à 6 naissances par semaine en France d'enfants atteints de leucodystrophie. Et au niveau de l'Europe, eh bien, c'est 20 à 40 naissances par semaine.
Si l'on souhaite aider votre association Ella, comment faire?
Alors, comment on peut faire? Eh bien, on peut déjà participer aux différentes opérations. Si on est à l'école, eh ben, on peut organiser Mettez Basket à l'école. Si on a son papa ou sa maman travaille dans une entreprise, eh ben, on peut lui parler de Mettez Basket dans l'entreprise. Ou tout simplement, on peut faire un don en allant sur le site d'Ella. C'est www.ella-asso.com. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ben, pour tout don qui est effectué au profit d'Ella, le donateur bénéficie d'une réduction d'impôt de 66%.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
Merci à vous.
La FM que j'aime, Radio Plus.
C'est la fin de ce deuxième numéro de Radio Marmottan. Nous remercions l'ensemble de nos invités qui ont participé à cette émission. On se retrouve très bientôt sur Radio Plus.